Chers amis, bonjour. La dernière fois, nous avions commencé à nous pencher sur la laïcisation, non pas seulement de l'État, mais de la société et de l'espace public. Voyons aujourd'hui quelques expressions de cette tendance. La première se trouve dans un certain nombre de réactions vis-à-vis de prises de position publique des responsables de l'Église, en particulier dans les domaines qui touchent à la vie sociale, politique et éthique, par exemple à propos de l'expulsion des Roms, sur le mariage pour tous, l'adoption pour des personnes de même sexe, la PMA ou la révision des lois de bioéthique. On entend ces affirmations, vous sortez de votre rôle, la laïcité vous interdit d'intervenir dans ces domaines, vous contrevenez à la laïcité en vous exprimant ainsi, l'Église n'a aucune légitimité démocratique pour s'immiscer dans le débat politique en France. En fait, la vraie laïcité nous a rendu notre pleine liberté. Nous n'avons plus ce devoir de réserve vis-à-vis de l'État que demander la situation concordataire. Comme toute association, l'Église a droit de s'exprimer librement, et si la stratégie de la politique politicienne n'est pas son domaine, la réflexion sur tout ce qui a trait à l'homme dans notre société la concerne directement et touche sa mission. Il en va de même des manifestations publiques organisées par des catholiques, en particulier des marches pour la défense de la vie. Si ces manifestations sont pacifiques et ne troublent pas l'ordre public, pourquoi certains groupes voudraient-ils les faire interdire ou les empêcher de se dérouler normalement? L'expression dans l'espace public serait-il sélectif? Pourquoi applaudir une gay pride et combattre un autre type de manifestation? Le religieux ou l'ecclésial ne pourrait-il plus avoir une expression publique? Nous sommes là devant une conception indue de la laïcité. Autre expression de la laïcisation de la société, les propositions visant à modifier le calendrier des fêtes chômées. Certains le font par hostilité ou indifférence à l'histoire de la France, qui a été fortement marquée par le catholicisme. D'autres le font par désir de donner à chaque religion la possibilité de fêter, avec un jour chômé, leur propre fête religieuse. En 2012, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines proposait de ne plus chômer pour Pentecôte, l'Ascension et le 15 août, et de donner à leur place 3 jours que les membres des différentes religions prendraient quand ils voudraient. Des aménagements peuvent bien sûr être trouvés. Mais occulter systématiquement toute une part de son histoire et de sa culture n'est pas bon pour la France ni pour son avenir. Mais c'est l'inscription de l'islam dans la société française qui a amené les déplacements les plus forts concernant la laïcité dans l'opinion publique et chez un certain nombre de leaders politiques. L'islam est devenu la deuxième confession religieuse de France après le catholicisme. Nous avons déjà vu toutes les questions que cela pose autour des lieux de culte, des aumôneries, de l'insertion dans la loi de 1905. Mais la politique internationale et ses retentissements en France ont modifié les données. Il y a eu le 11 septembre 2001, il y a eu l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, aujourd'hui la Syrie, le terrorisme islamique, la manifestation d'un prosélytisme islamique, la situation des minorités chrétiennes au Moyen-Orient, la persécution des chrétiens au Pakistan et au Nigeria. Cela a provoqué un réflexe de peur, de besoin de se protéger, d'envoyer un fort signe d'arrêt à ces forces islamistes. D'autant plus que, si nous voyons un islam qui veut s'intégrer dans la société française et s'insérer dans les lois de la République, nous constatons aussi d'autres courants plus offensifs qui remettent en question notre laïcité à la française, qui veulent imposer leurs particularités communautaristes et qui testent la capacité de résistance de la République à leurs revendications. On sent bien qu'une distinction des domaines entre loi civile et loi religieuse ne leur est pas familière. Or, il ne peut y avoir de vivre ensemble pacifique dans une société pluraliste que si une telle distinction fondatrice est maintenue. Une telle évolution n'a pas été sans conséquence sur les relations des responsables politiques avec les différents cultes. Il y a 15 ans, on voulait donner aux musulmans ce qu'on avait donné aux catholiques, aux protestants et aux juifs. Aujourd'hui, On restreindrait volontiers ce qu'on avait donné aux catholiques, ou ce à quoi ils avaient droit, pour ne pas avoir à le donner aux musulmans. Création d'une aumônerie scolaire dans un collège, affichage dans un lycée, voile sur les photos d'identité. Il faut d'ailleurs noter que, pour éviter de donner l'impression d'une discrimination religieuse vis-à-vis d'une religion, même si le problème est spécifique à cette religion, on prendra une mesure qui touchera toutes les religions. Par exemple, l'interdiction de tout signe religieux ostentatoire dans l'espace scolaire. Une première extension de la laïcité a vu effectivement le jour dans l'espace scolaire. Jusqu'à ces dernières années, la laïcité s'appliquait au personnel enseignant, à qui il était demandé de ne pas afficher leurs convictions religieuses ou politiques, et de ne pas porter d'insigne religieux distinctif. Maintenant, elle s'étend aux élèves eux-mêmes, qui pourtant ne sont pas agents ou fonctionnaires de l'État. La loi du 15 mars 2004 se veut une application du principe de laïcité. Elle interdit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. On veut faire de l'école publique un sanctuaire de la République dans lequel les religions sont bannies. Une telle loi pourrait se comprendre si l'ordre public était troublé par des jeunes arborant des signes ostentatoires ou provocateurs. Mais si ce n'est pas le cas, nous sommes en présence d'une infraction au principe de liberté religieuse. On peut en dire autant vis-à-vis de l'interdiction du voile qui serait imposée aux mères de famille accompagnant la classe de leur enfant lors d'une sortie scolaire. Il en irait de même si on voulait, à l'intérieur de services publics, interdire certains signes religieux aux usagers de ces services, le voile par exemple. S'il y a une interdiction du voile intégral, elle doit être justifiée par une raison de respect de l'ordre public et non pas pour une motivation anti-religieuse. Nous avons vu aussi des débats voir le jour autour de l'abattage rituel, des prières dans la rue, des dates d'examen pour les étudiants pratiquants, des carrés confessionnels dans les cimetières. Ce sont de vraies questions. Mais la meilleure manière de traiter ces problèmes spécifiques ne serait-elle pas de les aborder de manière pragmatique? C'est ainsi que pendant un siècle, bien des questions posées par l'Église catholique ont trouvé des solutions. On pourrait en dire autant à propos de la communauté juive, comme l'expliquait le président du consistoire central, Joël Mergui, dans une interview. Des arrangements de bon sens ont toujours permis aux Juifs de France de respecter leurs traditions religieuses. On est en train de perdre cet état d'esprit en raison d'une radicalisation de la laïcité. Or, si la laïcité se durcit et n'offre plus de souplesse, les Juifs, dont les règles sont les plus strictes, seront les grands perdants. Alors, est-on en route vers une laïcisation complète de l'espace public? Nous le verrons la prochaine fois.